Après le dit du Mistral, qui restera sûrement comme l'un des premiers romans que j'aurais préféré publier en 2020, Olivier MacBouchard nous revient en ce printemps 2022 avec un deuxième roman, toujours publié aux éditions du Tripode, Le Temps des Grêlons. Alors, un deuxième roman, c'est toujours un exercice un peu délicat pour un auteur. Soit son premier roman est un succès inattendu et il est tenté de faire au mieux une suite ou au pire le même livre avec d'infimes changements, soit de prendre une direction radicalement opposée, ce qui peut s'avérer être délicat puisqu'il risque de perdre aussi ses premiers lecteurs. Alors que les lecteurs qui avaient, comme moi, adoré l'Odile du Mistral se rassurent de suite. Vous trouverez dans Le Temps des Grêlons ce qui vous avait tant plu dans le dit du Mistral. Et quant aux autres qui n'auraient pas encore lu, je ne peux que vous encourager à vous précipiter d'urgence dans une librairie ou dans une bibliothèque, vous procurer le dit du Mistral, l'acheter ou l'emprunter. Et en plus, il vient de sortir en poche. Donc, le monde est vraiment bien fait. Olivier MacBouchard, bonjour. Je suis vraiment ravi que vous ayez accepté cet entretien. Malgré le décalage horaire, car vous êtes actuellement aux États-Unis, c'est un véritable plaisir de vous revoir 2 ans après notre première rencontre au Salon du Livre sur la place de Nancy. Alors avant que nous n'évoquions ensemble le contenu de ce nouveau livre et ses thématiques, j'aimerais que nous parlions de son aspect visuel. Alors, je le remontre, parce que ce qui frappe d'emblée, et c'était le même cas pour... Voilà, ça fait double, double couverture. Ce qui frappe d'emblée, en fait, comme avec le dit du Mistral, c'est la qualité plastique de l'ouvrage. C'est sa couverture, qui est réalisée, comme précédemment, par une illustratrice qui se fait appeler Phileas Dog. À mon sens, moi, la couverture du dit du Mistral, outre les qualités littéraires de l'ouvrage, mais c'est sa couverture aussi qui m'avait séduit dès le départ et qui, je pense, a un peu contribué aussi au succès du livre. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est fait ce choix de retravailler avec cette illustratrice? Est-ce que c'était un choix de votre part ou est-ce que c'est tout simplement un choix de l'éditeur?
Pour le dit du Mistral, on avait vraiment eu un coup de foudre professionnel avec Phileas Dog. Il y avait vraiment eu une symbiose entre le livre et la couverture. Donc moi, ça m'avait beaucoup plu. On était resté sur une note très positive. Et pour le temps des Grêlons, donc j'avais envie de continuité, de rester dans cette unicité et puis cette beauté du livre objet. Donc très naturellement, moi, dans ma tête, il y avait le lien avec Phileas Dog obligatoire. Et lorsque j'ai fini le manuscrit, donc avec mon éditeur, on m'a dit voyons ce qu'en pense Phileas Dog, parce qu'elle n'est pas obligée, bien sûr. Et donc on lui a envoyé, on lui a dit cette botte est partante. Et elle nous a répondu « Parfait, je suis partante, je lève la main. Voilà. » Donc on a été très content par cette réponse. Et on lui a dit « Page blanche, quoi. Tu fais ce que tu veux. » Moi, j'avais un secret désir que ce soit un chat.
Oui.
Encore, mais priorité aux artistes. Donc on lui a dit « Page blanche, Phileas Dog, tu choisis. » Et elle est revenue vers nous avec 4 projets. Je me dis, voici les idées, 4 croquis. Et donc, à ce moment-là, il y a un référendum où il y a l'équipe du Tripode qui a une voix, Phileas Dog qui a une voix, et l'auteur qui a une certaine majorité absolue. Et à l'unanimité, on s'est décidé pour cette Pinède et ses Grêlons. Voilà. Parce que... Il y a un double message, il y a la douceur de la pinède et en même temps il y a le frelon qui est présent
et qui est menaçant. Oui,
qui est présent et qui introduit une notion de risque, de danger. Et on est parti là-dessus. Voilà.
Le Temps des Grêlons est un livre qu'il vous faudra lire avec attention, de sa page titre à son achevé d'imprimer. Je le redis, c'est très important, il faudra le lire avec attention. Commençons donc par l'épigraphe, si vous le voulez bien, qui est une phrase d'Hugo Pratt. « Le temps et l'espace ne sont que des repères, non des limites insurmontables. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce choix de cette phrase d'Hugo Pratt? Et voilà, pourquoi Hugo Pratt et pourquoi cette phrase comme épigraphe?
Donc, tout d'abord, j'ai une certaine fascination pour Hugo Pratt. C'est grâce à Hugo Pratt, moi, que je, que je suis allé vers la littérature. Hein. Ça a été de la bande dessinée vers la littérature. Et c'est vraiment Hugo Pratt qui m'a... qui a provoqué l'étincelle dans mes neurones. Donc, on va dire que j'ai une dette envers Hugo Pratt, et que je considère un peu comme un maître à penser, comme un guide. Donc, j'ai toujours été très proche d'Hugo Pratt. Hein. Et donc, je lis beaucoup de littérature sur lui, et cette citation, cette phrase, elle m'est toujours restée dans le cerveau. J'avais trouvé ça assez intéressant, parce qu'il a un lien avec les... Non, bon, quand vous lisez un peu Corto Maltese, il y a Jack London, il y a Arthur Rimbaud, il y a des personnages historiques qui se mêlent avec, avec les histoires de Corto Maltese. Et donc, cette phrase m'avait parlé. Et second point, elle insiste sur le fait que le temps doit être peut-être neutralisé comme dimension d'analyse. C'est un peu bizarre à dire comme ça, parce que forcément dans la vie réelle, on se dit bah, le temps hier, aujourd'hui, demain, après-demain est une conséquence logique. Mais cette citation de Goprat montre que si on neutralise le temps chronologique, il peut y avoir aussi de belles surprises dans les récits, dans les histoires. Et je pense que pour apprécier ce livre, je pense que ce livre peut être déstabilisant. On se dit, mais pourquoi ça ne peut pas marcher? Comment est-ce que ça marche? Il y a un souci. Et il faut, cette citation est un effet d'annonce, quelque part, est une mise en garde, disant, acceptez de neutraliser la dimension temps. Et si vous arrivez à faire ce choix, le récit peut vous offrir de très belles surprises.
Alors, vous venez d'utiliser le mot de mise en garde. Il y en a une deuxième qui est une note d'éditeur qui évoque brièvement une œuvre inédite de Rimbaud intitulée « Photographie des temps passés ». Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez pris connaissance de cette œuvre inédite ?
Alors, outre Hugo Pratt, je suis un grand fan de Arthur Rimbaud. C'est par Hugo Pratt, d'ailleurs, que j'ai découvert Arthur Rimbaud. N'en déplaise à l'Éducation nationale, j'étais un peu passé à côté d'Arthur Rimbaud et des poèmes appris en classe. Et c'est en lisant les bandes dessinées d'Hugo Pratt que j'ai vraiment pu apprécier vraiment la poésie d'Arthur Rimbaud. Donc j'apprécie ses textes, mais aussi j'apprécie beaucoup sa vie, la période européenne, française, mais aussi toute sa vie en Éthiopie. Et donc je ne suis pas un spécialiste d'Arthur Rimbaud, loin de là, mais je connais quelques détails de sa vie. Et donc je parlais de l'Éthiopie, c'est quand même un poète qui a un lien avec la photographie. Il est suffisamment moderne pour avoir laissé des traces, des vestiges qui réapparaissent ponctuellement dans notre vie. Des fois, on découvre des clichés d'Arthur Rimbaud en Éthiopie, on découvre des poèmes ou des lettres, en tout cas, inédites. Mmh. Et donc, c'est une œuvre qui continue à créer quelques surprises dans le temps d'aujourd'hui. Voilà. Donc, lorsque des photos d'Arthur Rimbaud ont été découvertes, lorsque des lettres ressortent, j'ai toujours un œil qui tressaute. Et donc, je connaissais ce fameux, il n'est pas fameux, mais ce poème qui n'a jamais été publié, ce recueil de poèmes qui n'a jamais été publié. Et j'avais trouvé le titre magnifique, Photographie des temps passés. Je dis quel dommage que ce soit perdu. Enfin, peut-être le retrouverons un jour. Et donc, ça fait quelques années que je me plaisais à imaginer ce que pouvait être ce recueil de poèmes. Donc, c'est pour les antiquaires, si un jour vous trouvez un livre qui s'appelle « Recueil de photographie des temps passés », surtout, levez la main, vous aurez trouvé une perle, je pense.
Alors, à ce moment précis de la lecture, le lecteur ne sait pas encore qu'il devra relire le texte pour comprendre que toutes les pièces du puzzle étaient déjà là, dès la première ligne, sous ses yeux. Est-ce que ce jeu littéraire, parce que c'en est un, il y a une certaine jubilation dans votre écriture, ce jeu avec le lecteur, est-ce que c'était quelque chose qui était présent dès le départ de la rédaction du Temps des Grêlons, ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure dans l'avancée du récit ? En fait, je vais vous le dire peut-être d'une autre manière. Est-ce que, déjà, comment est-ce que vous avez travaillé à la rédaction de ce texte-là? Et est-ce que tout, justement, tout était... Vous aviez déjà, par exemple, on va dire la fin, toute la construction, ou est-ce qu'au contraire, en fait, c'est venu au fur et à mesure?
C'est venu après, c'est venu à la toute fin. J'ai d'abord écrit l'histoire principale, donc le début de l'histoire, le chapitre 1, etc. Et en arrivant à la fin, je me suis aperçu que en ajoutant deux lettres et en travaillant un peu à droite à gauche, je pouvais redimensionner complètement l'histoire. Et, un peu comme j'aime beaucoup ce film Fight Club. La première fois que vous voyez Fight Club, vous vous dites c'est un film de baston, un film de bagarre. Et puis vous arrivez à la fin et il y a une étincelle qui se passe et il faut que je le relise, il faut que je le revoie. Voilà. Et donc là, ça a été un peu pareil. Je l'ai terminé et en le relisant, en mettant le point final, je me suis dit mais il est possible de complètement redimensionner l'histoire et qu'il y ait une histoire au sein de l'histoire. Et donc, on a un peu travaillé avec mon éditeur sur le paratexte, le mécanisme avant et après, pour qu'il y ait un univers derrière l'histoire originelle. Il y a un petit double effet qui est intéressant.
Alors, comme je l'ai dit en fait en introduction de cette rencontre, les lecteurs et lectrices qui ont adoré le Dîner Mistral ne seront pas totalement perdus à la lecture du Temps des Grelons, puisqu'il prend place près du Calavon, dans le Duberon. Est-ce que cette région, qui est la région de votre enfance, c'est une terre qui se prête plus qu'une autre au réalisme magique?
Oui, je pense. Oui. Parce que le... On a un peu une image carte postale du Luberon, mais pour moi qui ai vécu, enfin, ma famille y est originaire, et il y a quand même une forte dimension jaunesque de cette terre avec des mythes qui l'ont façonné. Elle est quand même très sauvage. Et moi, quand j'étais enfant, le Colorado provençal, c'était le Grand Canyon, quoi. Vous avez passé votre samedi dans le Colorado provençal, mais j'étais Billy the Kid dans le Grand Canyon. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de mythes et des légendes et des reliefs qui peuvent impacter les imaginations. En tout cas, elles ont impacté la mienne.
Alors, j'ai pas employé ce terme de réalisme magique à la légère. Le Temps des Grelons, c'est un roman qui est un roman d'anticipation, d'une certaine manière. C'est pas de la science-fiction, même s'il peut y avoir un côté un peu hard science par moment. En tout cas, il y a des explications très concrètes de ce qu'on va lire. Des explications même assez techniques par moment. On est dans un mélange d'anticipation et de réalisme magique. On n'est pas très loin du conte, malgré tout, sans être dans un conte philosophique. On est quand même dans ce conte. Alors, contrairement au Dîner du Mistral, on n'est plus sous l'égide des grands auteurs provençaux qui étaient Bosco, Pagnol et Giono. On est là effectivement plutôt sous l'égide de grands poètes de la fin du 19e. Qu'est-ce que la poésie vous a apporté, vous, en tant que lecteur et écrivain? Comment en fait ces lectures ont façonné aussi votre imaginaire et votre écriture par la suite?
Comme j'ai pu le dire auparavant, c'est par Hugo Pratt que j'ai découvert Arthur Rimbaud. Donc pour moi, la poésie, donc je suis passé complètement à côté au début en termes scolaires sur la poésie. Je n'ai pas de souvenirs d'école de poèmes qui m'avaient retourné. Mais par Hugo Pratt, j'ai découvert Arthur Rimbaud. Et c'est grâce à Arthur Rimbaud que j'ai découvert la littérature, quoi. À savoir que des mots peuvent déclencher des émotions, des constructions de mots ou des juxtapositions de mots peuvent sans les dire, déclencher des sentiments, dévoiler des horizons. Donc, pour moi, la poésie a quand même cette image de fenêtre. Vous ouvrez la fenêtre et le monde peut s'ouvrir à vous par cette fenêtre, par la poésie. Donc, dans le Lit du Mistral, je voulais rendre hommage aux grands auteurs du Sud, aux grands auteurs provençaux. Et dans le temps des Grêlons, je voulais, tout en restant dans la veine du réalisme magique, je voulais ouvrir un autre hommage à la poésie, aux poètes qui peuvent avoir ce rôle de sauveteur pour la morne réalité. Vous êtes dans une pièce où c'est un peu morne, il y a quatre murs peints en blanc avec du meuble Ikea, mais il y a une fenêtre et vous pouvez ouvrir cette fenêtre grâce à la poésie. Et d'ailleurs, c'est un peu le message du livre, hein, la poésie peut sauver des vies. En tout cas, elle permet de vous... Moi, elle m'a permis de me sauver.
On va en venir finalement en fait au contenu de ce livre. Là, on a parlé justement de ce qu'on pouvait y retrouver, de sa construction. Est-ce que vous pouvez nous présenter, je pense que ça sera plus simple d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous présenter Le Temps des Grêlons, sans trop en dire, bien évidemment, pour ne pas gâcher le plaisir de lecture.
Donc, un beau jour, ça se passe actuellement, mais un beau jour, les appareils photo arrêtent de fonctionner. Donc, c'est-à-dire que les êtres humains n'impriment plus sur les clichés. Vous prenez une photo, le paysage est là, la plage, la montagne sera là, mais la personne que vous avez prise en photo n'apparaît plus sur la photo. C'est comme ça. C'est comme ça, on ne sait pas pourquoi et on ne saura pas pourquoi. Là n'est pas trop le sujet, en fait. Les appareils photo arrêtent de fonctionner, point. On l'admet. Et le vrai sujet, c'est trois petits-enfants du sud de la France qui grandissent, ou en tout cas qui vont devoir grandir face à cet état de fait, ce point de rupture qui va complètement bouleverser l'univers. Voilà. Donc ces trois petits-enfants, en tout cas la France, ces trois petits-enfants, il y a Gwendo. Donc, Gwendo, c'est une jeune britannique, franco-britannique. Ses parents sont de classe assez aisée, je pense. Et ils sont venus écouler leurs beaux jours en Provence. Il y a Jean-Jean, qui vient d'un milieu un petit peu plus difficile, qui a un problème de surpoids. Et qui a un problème de bégaiement. Donc c'est quelqu'un sur lequel il y a beaucoup de choses, mais qui a le cœur sur la main, qui a envie de faire le bien, quoi, qui est très gentil. Voilà. Et puis il y a le troisième, donc qui est le narrateur. Il n'a pas inventé la poudre. Il a des problèmes en classe. En tout cas, il a un gros problème d'attention, ça c'est certain. Il n'écoute pas, il est dans ses mondes, il est ailleurs. Et il vit seul avec sa maman, qui a une petite boutique de photographie, justement. Voilà. Et ces trois sont ensemble lorsque les appareils photo arrêtent de fonctionner. Et le roman va suivre ce trio, ce triptyque. Et chacun va essayer de se construire face à cet événement, politiquement, sociologiquement, professionnellement. Chacun va essayer de faire de son mieux. Hein. Ils vont essayer de grandir comme ils peuvent. Certains par opposition, d'autres vont au contraire rebondir dans cet événement, d'autres vont complètement le refuser. Voilà. Et puis après, il faut lire le livre. Voilà.
Alors, on peut peut-être préciser quand même un élément assez important qui arrive quand même assez vite dans l'ouvrage, c'est que c'est pas tout que les appareils photo ont cessé de fonctionner. D'ailleurs, ils ne sont pas cessés de fonctionner puisqu'on continuait toujours à prendre des photos. C'est juste qu'on les êtres humains n'apparaissent plus dessus. C'est qu'un jour, des gens finissent par réapparaître. Et ces gens, on va rapidement comprendre, après vous m'arrêtez si vous pensez que j'en dis trop, mais que ce sont des gens qui ont été pris en photo il y a déjà quelques années. Ce qui sous-entend que tous les gens qui ont été pris en photo à un moment ou à un autre vont revenir sur Terre, tels des revenants d'une certaine manière, et qu'il va bien falloir s'en occuper. Il y a quand même une idée très belle, je trouve très poétique, de cette idée de data en fait qui s'échappe et qui tombe. Enfin, il y a cette notion d'orage. Alors, l'orage était déjà présent dans le Didi Mistral, un peu comme un élément un peu fondateur, en tout cas dans le récit, puisque dans le Didi Mistral, c'est l'orage qui éclate et qui détruit la murette mitoyenne du narrateur avec Monsieur Sekaya, qui va les obliger à travailler ensemble pour justement découvrir des poteries, un endroit où il ne devrait pas y avoir de poteries. Là, il y a aussi cet orage qui éclate d'une certaine manière, et puis cet orage qui arrive. C'est-à-dire que on est quand même dans quelque chose de très poétique, de très doux, comme dans le Didi Mistral, et pourtant il y a une certaine noirceur qui s'installe au fur et à mesure, une espèce de voilà de noirceur qui est presque malheureusement inéluctable. Vous décidez dans ce livre, avec beaucoup de douceur et de délicatesse, d'aborder un sujet, de sujet grave, et notamment la montée d'un régime autoritaire, pour ne pas dire fasciste, même le mot n'est pas prononcé, mais c'est clairement ce qui va venir. Mais vous décidez de le faire avec le regard du narrateur, qui est encore à ce moment-là un jeune enfant. Comment est née cette idée? Parce qu'il y a plusieurs choses dans le temps des grelons, justement. On aurait pu rester dans un récit où, effectivement, les gens reviennent quand ils ont été pris en photo, et pourtant, vous décidez de partir vers autre chose. Et à la réponse de « qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ?», il y a des bonnes choses qui sont proposées, et malheureusement aussi, toujours le pire.
C'est une question difficile. Mais donc l'idée, la trame du roman m'est venue tout de suite. Quoi. J'avais vraiment l'intégralité de l'histoire en tête dès le début. Et j'avais vraiment cette envie de parler de choses graves, d'événements impactants, lourds. Et je savais de quoi parler, mais je ne savais pas vraiment comment. Et ce qui me gênait un peu, pour ne pas dire beaucoup, c'est que lorsqu'on parle de ces sujets lourds, de ces sujets graves, il y aurait pu y avoir un ton donneur de leçons ou un ton rabâche. Difficile, je ne cherche pas à être forcément original, mais ça aurait pu avoir un côté déjà vu ou rien de neuf. À l'horizon. Et donc j'ai imaginé cet enfant, et très rapidement s'est imposé l'idée que ça devait être le narrateur. Et lorsqu'on a dit ça, moi je déteste les romans où qui ne colle pas entre le narrateur et son style. Donc c'est un enfant de 10 ans et on a l'impression qu'il a déjà fait Normal Sup ou Polytechnique. Ça m'insupporte. Donc à partir du moment où j'avais décidé que le narrateur serait un enfant, pour moi il était évident que le ton serait enfantin, que c'était avec des mots d'enfant, des figures d'enfant, des erreurs d'enfant, une syntaxe et un rythme d'enfant. Donc ça c'était évident. Et ça a été dur, hein, parce que ça demande un peu de travestir sa voix. Des fois, je me disais, c'est bien ça. Je me disais, mais impossible qu'un enfant le dise. Donc, supprimé. Et au fur et à mesure du récit, de l'écriture, plus je parlais avec ces mots d'enfant, plus j'étais convaincu d'avoir fait le bon choix quand même. parce que à un moment, le lecteur est juste derrière le narrateur, il est un peu au-dessus de son épaule, et on est très déstabilisé, je pense, et on regarde ce que dit ce narrateur, et on se dit, mais tu te rends compte de ce que tu es en train de vivre là, tu captes. Et le narrateur ne capte pas, en tout cas pas
jusqu'à un certain point, voilà, oui.
Pas jusqu'à un certain point, mais à ce certain point, on s'aperçoit qu'il n'est pas aussi en retard qu'il en a l'air au final. Il est plus malin qu'on le croit. Mais et donc c'est un peu ce que disait Shakespeare, a tale told by an idiot. Et donc il y a un peu une distance, et ça donne un côté très original, novateur en tout cas, et on entretient une relation différente justement avec ces événements, quoi. Et vous avez dit le mot fasciste, autoritaire, c'est vrai que la mise en garde envers les régimes autoritaires aujourd'hui dans la presse, dans les livres, elle est quand même très, très répandue, à juste titre, mais les discours qui font mouche, qui les montrent sous un angle nouveau, finalement, il n'y en a pas tant que ça, quoi. Et donc ce côté novateur m'a conquis au fur et à mesure que je rédigeais.
La construction du roman, alors il y a trois parties qui correspondent à trois temporalités en fait du roman. Chaque chapitre, ou peut-être pas chaque chapitre, mais en tout cas il y a des espèces de coupures entre les chapitres, qui sont des échanges de mails. De mails d'auteurs qui ne signent juste qu'avec leurs initiales, et qui s'adressent aux gouvernants, qui vont changer au fur et à mesure du récit. Ces mails qui paraissent complètement anodins, pour ne pas dire banals, pour ne pas reprendre le terme d'Anna Arendt sur la banalité du mal, en tout cas l'administration du mal, commencent au départ juste comme des mails en fait de renseignement. Des renseignements avec un R majuscule, en disant on a observé que telle photo aurait été prise à tel moment, que telle usine avait créé tant de nombre de pellicules à telle année, donc on peut s'attendre avec un décalage qu'on a calculé à tel ou tel moment que certaines personnes reviendront à ce moment-là. Dans le Dîner Mistral, à l'inverse, chaque chapitre était débuté par une citation d'un texte de Bosco, de Giono, de Pagnol, de Pétrarque. Qu'est-ce que ça apporte, là aussi, dans votre travail d'écrivain, de créer comme ça des ruptures dans le récit qui, alors moi, à mon sens, l'ancre encore plus dans une réalité, dans le temps des Grégeons, puisque l'apparition d'un document officiel au cours d'un roman, d'une œuvre littéraire, est aussi, là encore, un jeu qui ancre dans une certaine réalité, ou on va dire peut-être pas de réalité, mais en tout cas, où le pacte avec le lecteur l'ancre dans quelque chose de vraiment palpable, quand bien même on serait en train de lire un conte ou un roman de réalisme magique.
C'est une figure de style, une manière de raconter que j'aime beaucoup, puisque vous avez finalement l'histoire, la trame qui se déroule, et sporadiquement, que ce soit par les citations ou que ce soit par ces échanges de mails dont vous parlez, il y a des petites étoiles qui sont parsemées au gré du récit. Et ça introduit un double discours. Vous avez la trame initiale, et puis vous avez un phénomène d'écho, voire de résonance, avec ces étoiles qui sont parsemées à droite et à gauche. Et ça demande un peu de boulot pour le lecteur, je pense. Parce que on se dit qu'est-ce que ça vient faire là, ou pourquoi ça tombe ici, mais quelque part dans sa tête on enregistre, et puis à la fin, je pense qu'à la toute fin on se recule un peu et on voit la constellation. Donc je pense que le boulot de l'écrivain n'est pas de montrer la constellation. C'est assez dommage si vous la montrez en disant voilà, là tac, tout est fait, bon, c'est emballé, c'est pesé. Il y a le plaisir de la découverte, le plaisir du travail qui manque. Tandis que si vous montrez une étoile à gauche, une étoile à droite, et qu'après le lecteur prend sur lui pour prendre un peu de recul et découvre par lui-même la constellation, je pense que l'impact de la lecture est beaucoup plus fort. Hein. On se dit, ah, c'est là où... après, ça appelle la métaphore, l'allégorie, mais on se dit, ah, mais c'est là où il voulait en venir. Hein. Et du coup, là, le lecteur tire lui-même la conclusion du récit, je pense.
Oui, et quand bien même, là, je pense que la conclusion restera quand même universelle pour tous les lecteurs qui l'auront lu. S'il n'y a pas tellement d'interprétations possibles à ce qu'on a lu. En tout cas, il n'y a pas vraiment de doute sur la finalité du récit. Néanmoins, il y a quelque chose que je trouve que vous avez déjà évoqué dans une précédente réponse, c'est sur ce travail sur la langue et sur l'écriture. Contrairement justement au dit du Mistral, où on avait un narrateur beaucoup plus âgé, là on est avec un narrateur donc, qui est un enfant, qui va utiliser un vocabulaire d'enfant, des expressions régionales, des références qui, si on entre 30 et 40 ans, des références culturelles ou de jeux vidéo. Je pense qu'il y a une scène où il joue sur le vieil ordinateur de son père, un jeu vidéo qui s'appelle Worms, qui est une scène qui a été une espèce de Madeleine de Proust pour moi, parce que ça m'a rappelé des souvenirs justement d'après-midi passé à Worms sur un vieux PC, qui n'était pas vieux à l'époque, mais qui est sur un vieux PC. Pour en venir à ma question, en fait, c'est sur l'écriture, c'est comment justement vous avez travaillé ça, puisque vous vous êtes mettez d'une certaine manière, en fait, en tant qu'écrivain, en danger, alors en danger relativement maîtrisé, mais il y a quelque chose justement de prise de risque, et sans ça que je vous disais que le premier, en introduction, que le roman est très surprenant, que c'est toujours délicat sur un deuxième roman, c'est que même si on se retrouve, et ça je m'adresse plutôt au lecteur en disant, vous ne serez pas complètement déstabilisé à la lecture du Temps des Grelons, puisqu'on y retrouve un univers, on y retrouve effectivement des choses qu'on a vues. On pourra dire qu'un chat avec des pattes noires, un chat blanc avec des pattes noires, fait une petite apparition à un moment pour les lecteurs attentifs. Toujours est-il que voilà, ce travail sur la langue, est-ce que ça... Bien sûr que ça vous a demandé du travail, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer justement quelle méthode vous avez utilisé, en fait, comment c'est venu? Comment travaillez-vous, Olivier Macbouchard? Je suis désolé pour mes questions qui durent 10 minutes.
Il n'y a pas de souci. Je ne suis pas acteur, mais j'imagine que mes méthodes de travail sont proches de celles d'un acteur, dans le sens où j'ai une idée de l'intrigue, du message, de la trame, et je me dis qui serait le mieux placé pour raconter cette histoire, quelle serait la meilleure manière de la raconter. Donc, pas le quoi, mais le comment. Et une fois que le comment, le qui est décidé, bah, je ferme les yeux et puis je m'imagine dans la peau de du narrateur. Et je deviens cette personne. Donc, dans le dit du Mistral, c'était vraiment le sud avec un S majuscule, la beauté de la nature, les mythes, les légendes avec un L majuscule. Et donc ça donnait ce ton très lyrique, très minéral, proche des conteurs. Hein. Je dirais que ce style est assez proche du mien naturel. Mais comme vous l'avez dit, donc, Le Temps des Grelons était le second roman et je savais que j'étais attendu au tournant. donc vous avez le choix, soit vous faites une suite, mais bon, c'est quand même... en général, une suite n'est jamais aussi bonne que le premier opus. Il faut savoir se renouveler et faire mieux, enfin, ou faire plus lyrique. On aurait pu tomber dans le mélo quand même. Je pense qu'il aurait fallu faire attention. Et donc, j'ai vraiment fait le choix d'une rupture de style. Disons, je pars dans une autre direction en termes de style, c'est assumé. Hein. Et ce petit enfant, et je me suis imaginé dans la tête de ce petit enfant, parce que je pense que c'est lui qui avait l'œil le plus novateur et le plus frais pour raconter ces événements lourds. Voilà. Donc j'ai rétro-pédalé dans mon petit cerveau en me disant comment est-ce que je parlais quand j'avais 12-13 ans. Je me suis rappelé, bon, je crois qu'on a dû jouer ensemble, c'était dimanche après-midi sur Worms. J'ai beaucoup observé les enfants de mon entourage, hein, comment ils pouvaient parler, les figures de style qu'ils emploient, qui sont des fois rigolotes et très souvent poétiques, hein, quand même. Je l'avais pas vu comme ça. Et voilà.
Oui, puis il y a quelque chose de très vrai dans les rapports qu'ont ces enfants entre eux. C'est-à-dire que, soit en ayant des enfants, effectivement, on peut l'observer, soit en plongeant aussi dans ses propres souvenirs en tant que lecteur. Justement, il y a des choses qui évoquent des situations, des rapports de, en tout cas, de violence ou de déception qu'ils peuvent avoir. Il y a une scène où Jean-Jean, ils sont en train de faire de nager, en fait, près d'une cascade, lui refuse, et finalement, le narrateur, pour faire plaisir aux grands ou pour pouvoir s'intégrer avec ceux qu'il appelle les éléments perturbateurs, va trahir d'une certaine manière son ami en le poussant à l'eau. Alors, ça aura pas vraiment de gravité sur le moment, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se brise. Et comment les amitiés effectivement évoluent avec cet âge-là et avec le temps, parce qu'on est sur, encore une fois, un récit qui s'étale sur une dizaine d'années, avec des personnages qui se perdent et qui se retrouvent, en tout cas avec leur chemin vont se croiser, ils sont tous au même endroit et puis finalement leur chemin vont prendre des directions différentes. Il y a quelque chose, je trouve, de très malgré, si on met de côté en fait le côté réalisme magique et le côté conte, quelque chose de terriblement rationnel en fait dans vos codes. Est-ce que utiliser, et ce sera ma dernière question, et encore elle dure des plombes, désolé, mais est-ce que utiliser justement le réalisme magique, utiliser le conte dans vos livres, parce que maintenant vous en avez fait deux qui ont été publiés aux éditions du Tripode, c'est aussi une manière un peu détournée de parler de nous, et de nous, hein, nous tous.
Complètement, hein, tout à fait. Hein. Moi, les deux livres ont deux messages très très forts, hein, sur nous-mêmes. Hein. Le dit du Mistral était plus sur la transmission, le lien d'une génération à l'autre. Ceux qui n'y ont vu dans ce livre qu'un roman de terroir, à mon avis, ont manqué quelque chose. Mais je dirais que la majorité a vu ce qu'il y avait à voir. Et pour moi, dans le temps des grêlons, ce n'est pas simplement un récit d'enfant qui parle difficilement ou qui a un peu de retard, mais c'est vraiment une étude de comment les amitiés... Les amitiés sont-elles éternelles ? Comment les amitiés peuvent résister à la violence des adultes, à la vie, avec un V majuscule ? D'où le lien avec Hugo Pratt, d'ailleurs. Et un deuxième message beaucoup plus fort, hein, beaucoup plus grand, qui est le lien à l'autre, le lien avec les autres, avec un A majuscule, hein. Comment est-ce que nos sociétés réagissent, interagissent avec celui qu'on définit comme l'autre. Donc, il y a un autre qui apparaît suite, je ne sais pas, à un bouleversement politique, à une découverte scientifique, peu importe. Et nos sociétés vont devoir interagir agir avec cet autre. Quoi. Donc, est-ce que ça va être par l'intérêt, la curiosité, et puis après le rejet, le rejet, la destruction, ou l'assimilation. Ce sont des messages assez qui ce sont des questions qui peuvent en dire long sur nous-mêmes aujourd'hui. Parce que effectivement, à chaque fois qu'on se pose la question de l'autre, on arrive à la question qu'est-ce qui nous définit nous. Voilà. Et au final, entre les deux livres, on peut se poser la question qu'est-ce qui nous définit nous. Bon là, je fais des commentaires composés de professeurs de lettres, mais est-ce que le premier n'était pas sur un la mémoire et deux pour le second l'autre avec un A majuscule.
Toujours est-il, et ce sera pour conclure, le roman, même si effectivement une ombre apparaît, une ombre grandit, une lueur d'espoir finit par apparaître. Comme je vous l'ai redit, je le redis plein de fois lors de cette rencontre, lisez déjà avec attention tout le livre, de sa page titre à son achevé d'imprimer, parce qu'il a une importance particulière qui vous permettra peut-être de redécouvrir le roman sous un angle un peu différent. Olivier Macbouchard, c'était vraiment un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup d'avoir accepté cette rencontre et je vous dis à très bientôt.
Je vous remercie.